Donc, voilà, je voulais remercier d'abord Isabelle Stengers d'avoir accepté cette invitation. Et je vous remercie à tous d'être venus en ce samedi de l'Ascension pour participer à ce workshop. Et donc, pour peut-être introduire un petit peu le contexte de ce workshop, et vous me dites si jamais c'est pas assez fort, je peux monter la voix. Donc, nous sommes à la Maison Pop dans le contexte d'un cycle d'expositions et d'événements pluridisciplinaires autour de la figure de la sorcière comme métaphore de l'altérité et comme symbole de la résistance à la norme, qu'elle soit culturelle ou économique. Ce qui m'a d'abord intéressée avec ce projet ou cette recherche, c'est la propension, et je vais reprendre quelques mots d'Isabelle Stengers, la propension de reclaim, pour utiliser un mot qu'on retrouve beaucoup dans son livre, également de recapturer, faute d'une meilleure traduction, le potentiel d'insoumission et de résistance de la sorcière. L'étiquette sorcière est quelque chose qu'on a retrouvé apposé à des groupes de femmes dites dangereuses. On a pu trouver ça au début du XXe siècle en parlant des suffragettes, par exemple, ou même dans les années 80, les femmes qui se sont regroupées à Greenham Common dans leur campagne du désarmement nucléaire, se sont aussi retrouvées appelées sorcières à de nombreuses reprises par les médias. Et cette étiquette qui peut être aussi flatteuse parce qu'elle signifie un danger, le danger éventuellement de faire prise, encore une fois pour reprendre un mot d'Isabelle Stengers, et une étiquette donc qui a été appropriée elle-même par beaucoup de personnes dissidentes, marginales, artistes, militantes, de la danseuse de cabaret Valeska Gert dès les années 20, à la militante et une sorcière néo-païenne Starhawk, en passant par aussi beaucoup de praticiens, d'artistes qui sont présents dans ce volet et dans les volets précédents. On a notamment Camille Ducellier qui a fait un film qui s'appelle « Sorcières, mes sœurs », donc qui se revendique un peu de ce mouvement-là. Et ma première rencontre avec le sujet, c'était vraiment via le travail de l'historienne et l'activiste Silvia Federici, plus particulièrement son livre qui s'appelle « Caliban and Witch Women, the Body and Primitive Accumulation », qui retrace en fait la transition entre féodalisme et capitalisme, plutôt dans le contexte britannique. Donc elle s'attache à décrire le moment où, disons, elle décrit le déclin des espaces communs ou des commons, le principe de fermeture de ces commons avec les enclosures, la propagation de la propriété privée, du travail rémunéré qui vont disqualifier la femme, l'exclure de la vie sociale et économique du village. Et voilà, lui ôter aussi son espace où elle avait la capacité de s'organiser, de se rencontrer, de parler, donc qui étaient les commons. Donc toute personne qui ne s'aligne pas au nouvel ordre imposé par cette transition va être jugée suspecte. Et selon Federici, c'est vraiment à ce moment clé de transition entre féodalisme et capitalisme qu'émerge la construction et la stigmatisation d'individus considérés comme anomiques. Pour reprendre les mots de Barthes dans sa théorie sur Lacan éponge, cet individu est l'individu sur lequel la communauté pourra fixer la maladie. Et la sorcière participe, la construction de cette figure participe de ce phénomène. Elle est un de ses rejets retenus. Et donc, Federici, entre plusieurs choses, explique dans son livre que le capitalisme n'aurait pas pu être mis en place sans la chasse aux sorcières, sans la dépossession des terres communes et sans le colonialisme. Elle décrit la sorcière comme l'incarnation d'un monde de sujets féminins que le capitalisme devait détruire, l'hérétique, la femme désobéissante, la guérisseuse, la femme qui osait vivre seule, la femme qui empoisonnait la nourriture de son maître et inspira la révolte des esclaves. Similairement, et ça c'est à une autre époque, un autre contexte, la revue Féministe Sorcière qui est publiée à partir de 1975 jusqu'en 1982, va inaugurer son premier numéro avec une sorte de statement qui dit que la sorcière est la personnification de la révolte féminine qui, contre le mépris, l'oppression et la persécution, dit oui à elle-même et non au monde tel qu'il est et ne devrait pas être. Donc le monde tel qu'il est et ne devrait pas être, ça me fait beaucoup penser au slogan souvent évoqué par Isabelle dans son livre « Un autre monde est possible » qui surgit à Seattle et qu'on retrouve aussi dans les discours des indignés plus récemment. Donc j'ai pensé que peut-être pour commencer, si ça vous convient, après on peut débattre, le mouvement Occupy pourrait être un sujet approprié dans la mesure où Occupy prolonge le cri dont parle Isabelle, le cri de Seattle, en investissant les différents outils nécessaires au désenvoûtement du capitalisme financier en tant que mouvement localisé, moléculaire, et qui participe de la propagation, de la dynamique de propagation d'un soulèvement. Donc, moi, je me demandais peut-être, j'aurais voulu qu'Isabelle peut-être commente le mouvement Occupy par rapport à nous disant un petit peu ce qu'il apporte à sa proposition pragmatique, qui est donc la sorcellerie capitaliste. Et peut-être, avant de commenter ce mouvement-là, comment il s'inscrit disons comment il répond à votre proposition, ou peut-être les points aussi de divergence, peut-être revenir sur quelques-unes des caractéristiques et des enjeux de vos propositions pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec votre travail. C'est un peu large, mais peut-être pour commencer, on peut faire comme ça et on va réduire.
Oui, d'abord, merci, et merci d'avoir accepté de donner à cette rencontre la première question, c'est-à-dire une tentative de penser ensemble. Où bien évidemment, je peux commencer à parler, mais c'est dans l'espoir que d'autres voix vont nous dire et que, comment dirais-je, contrairement à un exposé usuel, ici, il y a une inconnue, c'est-à-dire qu'une rencontre de ce genre peut réussir ou rater au sens de d'une pensée ensemble qui prend lieu ou qui ne prend pas lieu. Réussir ou rater, ça veut aussi dire que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et c'est, il me semble, l'une des choses que les mouvements américains ont su faire et ont continué à faire dans le mouvement Occupy aux États-Unis, parce qu'il y a eu une tradition justement de gaming empowerment, comme ils disent, c'est-à-dire des manières de faire, des pragmatiques de la réunion ensemble qui font que ces réunions ne ressemblent pas aux réunions dont celles qui ont passé une époque connaissent un peu trop bien, c'est-à-dire, comment dirais-je, des choses où on s'ennuie très facilement, où on apprend à se taire, où on apprend à subir, où on écoute les grandes gueules. Il y a toute une pratique aux États-Unis dont l'une des racines fortes sont le féminisme américain, c'est-à-dire la tentative pratique de, comment dirais-je, fabriquer des rencontres ensemble qui s'adressent immédiatement à ce qui fait que tant de rencontres tournent mal ou tournent tristes ou tournent au contraire des poètes. Sentiment d'impuissance ou de frustration ou de il y a quand même quelque chose autrement, etc. J'insiste sur ça parce que justement, j'ai un peu vu le mouvement des indignés à Bruxelles. Il y a de tout, c'est un peu difficile d'en parler pour le moment de manière globale. Ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, le savoir de, pas seulement des sorcières, mais aussi de l'ensemble de la nébuleuse qui s'appelle Action directe non violente, comment dirais-je, à tout le savoir qui a été produit depuis 30 ans ou plus, a retrouvé un nouveau terrain. Il y avait un terrain qui a été à peu près, supprimé avec l'histoire des Twin Towers, donc septembre 2001, et Là, ça a été la charte blonde de nouveau. Et pour les États-Unis, ce mouvement Occupy, c'est comme la vie qui ressurgit. La vie qui ressurgit et les pratiques ayant été apprises qui sont transmises à une nouvelle génération. Donc, tandis qu'en Europe, j'ai l'impression que ça n'a pas cette espèce. Il n'y a pas eu la catastrophe des tours jumelles et il n'y a pas ces retrouvailles avec ce qui avait à réussir ce mouvement. Donc, si j'insiste sur ça, c'est que une réunion comme la nôtre, je dis, elle peut être réussie ou ratée, mais c'est pas. Il y a toujours une dimension d'inconnu, de ça prend ou ça ne prend pas. Mais par contre, il y a aussi un art qui fait que c'est pas simplement un coup de dé, ça prend ou ça ne prend pas. C'est une manière de faire. Et l'une des choses, me semble-t-il, les plus importantes que et les féministes et ceux et celles qui ont suivi ont appris, je dirais, c'est un art qui passe par une dépsychologisation. Pour moi, les ancêtres des sorcières dans les années, 70, c'est notamment, il n'y a pas d'exclusive, hein, mais c'est notamment lié aux États-Unis, les mouvements le personnel et politique. Certains d'entre vous sont familiers du personnel et politique.
Oui.
C'est des mouvements, oui.
Même le mouvement Occupy, on le comprend.
Voilà. On va y revenir, puisque personnel et politique, ce sera déjà une bonne chose, et puis on verra si on parle d'Occupy, parce que justement, l'une des choses, c'est qu'en France, il est très faible.
Oui, c'est les insurgents en Espagne, les insurgents de
Les indignés, il y a en France, on parle que de Stéphane Essel, mais ailleurs, le mot indigné en Espagne notamment, et pour d'extraordinairement bonnes raisons, une masse de gens se sont réunis et ont campé dans des lieux publics, et ont discuté, et ont pensé, affirmé, penser ensemble la possibilité de faire autrement, d'agir autrement, de faire de la politique autrement, et ça continue, il y en a aussi en Grèce, etc. C'est une réponse dont on dirait qu'elle est quasiment logique, et un peu absente en France et en Belgique, malheureusement, à la crise radicale de la politique qu'on vit aujourd'hui. Quand je dis politique, je ne pense pas à politicien, hein, je pense à politique au sens de capacité de fabriquer des choses ensemble, de fabriquer du futur collectivement. C'est pour ça que pour moi, entre sorcellerie, art et politique, la conséquence est bonne, la politique ça se fait à tous les niveaux. La politique, ça peut être l'apprentissage d'un potager collectif. Je ne vais pas dire c'est politique au sens gauche et droite, mais il y a une manière de fabriquer quelque chose ensemble et de penser ensemble toutes les différences qui, si elles sont laissées aller, aboutira à de la division, aboutira à de la tristesse, aboutira à des, etc., qui, d'autant peut dire, c'est de la politique. Bon, eh bien, le personnel est politique. C'était des réunions dont on a surtout su, et en France, ça a fait un grand bruit, qu'elles étaient pour femmes seulement. Quoi, etc. Bon, mais c'était des réunions productrices de transformation. Et c'est bien une des choses dont il est question avec la sorcellerie comme art, c'est un art de transformation du rapport de soi aux situations, aux autres, et un art qui peut être individuel, il y a des sorcières isolées, mais qui est aussi un art collectif. Et à ce moment-là, disons, la dimension politique devient plus apparente. Donc le personnel et politique, c'était des femmes qui se réunissaient à partir de ce qu'elles ressentaient sur un mode personnel, au fond, le trésor secret de leur douleur, de leur désir, de leur honte, de leurs humiliations, parce qu'à l'époque, on était tout de même, surtout aux États-Unis, je veux dire que c'était des histoires de couple, de tristesse, et de parler ensemble, comment dirais-je, faisait que ce qu'ils avaient senti être personnel changeait de sens. Elles comprenaient que c'était en tant que femme que ça leur arrivait, et le fait, et non pas en tant que je secret, je souffrant, et le fait de le comprendre et de pouvoir en parler, de pouvoir en parler ensemble, de voir que les mêmes histoires se répétaient avec des accents un peu différents, était quelque chose qui transformait leur rapport à leurs histoires et faisait passer la dimension collective, c'est-à-dire aussi la dimension de transformation possible de ces histoires. Je me souviens, en Belgique, il y a eu une personne politique, j'en ai un peu fait partie, mais je me souviens aussi des journées des femmes, ça se passait à 11 novembre, et c'était tout à fait assez extraordinaire parce que dans les deux cas, il y avait une espèce de, on aurait pu dire, c'est répétitif, parce qu'effectivement, c'était un peu toujours la même chose. Oui, justement, c'est le fait que c'était toujours la même chose. Mais c'était aussi répétitif au sens de répétition, au sens de répétition de l'événement, parce qu'à chaque fois, c'était pas du bavardage. À chaque fois, c'était comme une première fois, la première fois qu'une femme oser dire publiquement entre soi, mais publiquement tout le monde, quelque chose qui n'était usuellement que murmuré à son oreiller avec une grosse larme. Donc c'était écouté, ça avait une dimension de rite, justement, parce que ces paroles qui à chaque fois se risquaient étaient écoutées par toutes, non pas sur le mode on a déjà entendu ça, mais sur le mode du elle aussi. Qui fait événement, qui transforme. C'est un sens du mot répétition que j'aime bien, c'est pas reproduction au sens du même au même, c'est de nouveau, elle aussi. Donc, donc ça a été, et pour moi, ça a été extrêmement important parce que c'était la première fois que je voyais effectivement cette expérimentation d'un collectif qui se crée sur un mode tel que c'est pas psychologique, au contraire ça dépsychologise. Le trésor psychologique de nos souffrances n'est pas est activement mis au travail et on sent que celles qui participent deviennent capables de transformation grâce aux autres, par les autres, avec les autres. C'est-à-dire que c'est quelque chose où à la fois, on pourrait dire, il y a une singularisation, parce qu'un devenir capable, c'est toujours une singularisation, mais une singularisation qui n'est pas une individualisation, parce qu'elle entre en résonance avec d'autres processus de singularisation dans le collectif, c'est-à-dire que chacune se sait redevable, non pas de tel autre en tant qu'individu, mais de cette dynamique collective qui les rassemble. Et ça m'a toujours semblé, je veux dire, ça m'a marqué personnellement comme une espèce de type de production d'intelligence collective. De manière collective de faire et de manière collective de produire, le contraire d'une mobilisation. Puisque c'est la mobilisation, la mobilisation militante, elle ne peut pas se défaire du fait que le mot mobilisation vient de problèmes de mobile et à vitesse, mais c'est la vitesse des armées qui se déploie. Quand il y a une opération de mobilisation générale, c'est l'armée qui doit être mobile. Et une armée mobile, ça veut dire que tout le paysage est défini en termes de on passe où ici on ne peut pas passer. Mais on passe, ça peut être à travers les champs, à travers tout. Je veux dire, plus rien n'est autre que possibilité de passer, quels que soient les dégâts. La mobilisation, donc, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, comme en temps de guerre, les doutes, les hésitations, les scrupules, tout ça, sont vécus comme trahison possible. Tu doutes. C'est la sonnette d'alarme à celui qui, dont le caractère militant peut être soupçonné. Et donc, oh, ici, au contraire, les doutes, dans l'autre cas, dans le cas du personnel politique, les doutes, les hésitations, etc., tout ça était la matière qui était travaillée collectivement. Donc, on pourrait dire que c'est l'anti-mobilisation. Et on pourrait donc dire que, d'une manière ou d'une autre, je ne dirais pas que c'était spécifiquement féminin, parce que je ne sais pas ce que c'est spécifiquement féminin, au sens où dans les groupes de sorcier, en anglais, sorcière, c'est witch. Et witch est un neutre. Il y a des hommes et des femmes qui sont witch. Tandis qu'ici, entre le mot sorcière et le mot sorcier, c'est très différent. Le sorcier, il est une figure très différente des sorcières. On n'a pas brûlé les sorciers, on a brûlé les sorcières. Donc il y a une différence en français qui n'est pas aussi remarquable en anglais. Par contre, je dirais que c'est la culture d'une proposition d'origine féminine qui est venue chez les féministes, de par les féministes, et qui a, comment dirais-je, qui a pu prendre ailleurs, mais qui est une figure antique. D'une figure de la mobilisation qui, elle, étant l'armée qui ne doute pas, par rapport auquel tout ralentissement est une possible trahison, eh bien, on pourrait dire, est typiquement au sens genré masculin. Donc, c'est une proposition, effectivement, dont on peut dire qu'elle est signée de la tradition, d'une tradition de féminisme. Alors, ce qui m'intéresse, et après je vais m'arrêter, c'est que dans tout ce que ces femmes ont appris entre-temps, la dimension rite est très importante. Et pourquoi cette dimension rite? Parce que justement, je crois que le rite n'est pas le rite n'est pas d'abord, en tout cas chez les sorcières qui m'intéressent, les sorcières néo-païennes, celles qui pratiquent le rite, celles pour qui ce qu'elles font, est à la fois de l'ordre de la guérison et de la production politique, celles pour qui les rites sont expérimentaux et non pas transmission d'un secret, comment dirais-je, initiatique. Il y a l'initiation, mais ce n'est pas un secret initiatique, c'est un apprentissage. Ces rites-là sont, au fond, font partie de quelque chose dont on peut dire d'un art expérimental de la rencontre ensemble. Comment faire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent et les mêmes qui se disent? Comment faire que quand quelque chose qui a été dit et qui n'a pas trouvé d'écho ne sombre pas dans le silence, comment faire que toutes les dimensions de ceux qui tentent de travailler ensemble soient activement présentes? Eh bien, c'est certainement pas en culpabilisant ceux qui parlent et en, comment dirais-je, en semant de parler ceux qui se taisent. Ça, c'est psychologique. Tu es coupable, tu parles trop, ben, si tu as quelque chose à dire, dis-le, etc. C'est toutes des injonctions dont les effets sont souvent complètement catastrophiques. Ici, les rites prennent la place, c'est-à-dire que les rites, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est souvent des fonctions prises par certains et qui vont, par exemple, dire « il me semble que un tel avait dit quelque chose et que personne ne l'a relevé. Est-ce que c'est quelque chose dont on devrait parler maintenant ?» Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que, me semble-t-il, la dépsychologisation signifie que Quoique, et ça c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup les palabres africaines qui ont aussi cette dépsychologisation, quand elles tournent bien, c'est que ce qui se produit transforme d'abord les gens en faisant qu'ils vont parler d'une certaine manière. Ils ne vont pas, et ça c'est quelque chose de tout à fait général, dire « si tu dis ça, c'est parce que tu ». Ils ne vont pas remonter aux intentions de ceux avec qui ils sont d'accord ou pas d'accord. Ils ne vont jamais donc personnaliser, comment dirais-je, leur position. Dans un rite, il y a un certain ralentissement qui fait que ce qui est dit comme traduisant une des dimensions de la situation autour de laquelle on se réunit. Et donc, l'idée de contradiction ou de conflit interindividuel peut se déplacer, non pas être apaisé, etc., non pas être pacifié, mais se transformer en facettes différentes et à agencer d'une situation. Ce qui signifie que l'idée que quelqu'un aurait la vérité de la situation apparaît tout à coup de très mauvais goût. Cette situation demande l'ensemble de ses dimensions, l'ensemble de ses plis, l'ensemble de ses implications, et c'est seulement le collectif en tension, mais ne personnalisant pas et ne prétendant pas avoir la vérité de la situation, qui peut, être à la hauteur de la situation qui réunit. Elles l'ont fait, ils l'ont fait, parce qu'à ce moment-là, c'était mixte de beaucoup, dans les actions non-violentes, non pas à cause d'un espèce d'idéal moral de la non-violence, mais parce que les actions directes non-violentes sont les actions les plus exigeantes. On peut prendre la décision que ce sera une action non-violente pour des motifs stratégiques, pragmatiques et non pas morales. Sauf qu'au moment où on fait une action non-violente, on a affaire à la police qui, elle, ne poursuit qu'un seul but. C'est provoquer, 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 jusqu'à ce que quelqu'un craque, lance un pavé, etc. Et on peut dire qu'il y a échec de l'action non-violente, au sens où la violence, dans ce cas-là, n'avait pas été voulue, n'avait pas été cherchée. Mais leur expérience, c'était si la décision d'agir ainsi, comme ça, sur ce mode-là, a été mal prise, des gens se sentiront forcés d'y aller, pris en otage par la décision collective. Ils y iront. Mais ce sera par là, ce sera ces faiblesses-là, ces manières d'y aller, etc., par où l'action pourra échouer, c'est-à-dire tourner en affrontement, qui, encore une fois, a été rejeté pour des motifs pragmatiques. Donc ça voulait dire que la qualité, la consistance, dirait un Guattarien, consistance au sens de toutes les voix sont entrées en consistance autour d'une manière de définir la situation. Donc c'est la consistance collective de la décision, ce qu'ils appellent le consensus et qui est bien loin d'autres stratégies de consensus, qui, comment dirais-je, commence l'action sur un mode tel qu'elle a les chances de tenir face à la provocation policière et aux suites aussi, puisque en fait dans ces actions-là, toutes les dimensions, ce sont des actions extrêmement pragmatiques au sens où toutes les suites sont envisagées. Par exemple, il est connu que la police va arrêter arbitrairement certains et d'autres pas. Et que donc ça crée une tristesse au sens, pourquoi moi ? J'avais dit oui, mais je suis mère de famille et quoi, je ne peux pas être en prison pendant 3 jours, etc. Donc ça crée, et c'est fait pour, des tensions, des divisions, des tristesses à l'intérieur de ce groupe. Donc la question est d'aller au plus pragmatique encore, c'est-à-dire de prendre soin de ceux qui sont en prison, de savoir aussi qui ne peut pas être absent 3 jours parce qu'il a charge de famille, parce que ceci, parce que cela, de ne pas culpabiliser, mais de savoir que ceux-là seront en retrait et auront d'autres choses à faire. De prendre en compte activement l'ensemble des poisons qui peuvent défaire un groupe, qui peuvent le diviser, qui peuvent produire des sentiments de prise d'otage. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'être, je ne sais pas si, et là, ce sentiment qu'on est pris en otage par une décision collective, on aurait dû s'y opposer, et le fait qu'on n'a pas eu le courage de s'y opposer, ou qu'on a, etc., fait qu'on se sent tenu de faire quelque chose dont on sait qu'on ne devrait pas le faire, etc. Toute cette manière de faire, etc., qui vont avec les opérations de mobilisation, eh bien là, ce sont vraiment les poisons par rapport auxquels il faut apprendre l'art des contre-poisons. Alors, encore 2 minutes et puis je m'arrête, pourquoi se sont-elles appelées sorcières, elles ? D'abord, il y avait une tradition, la tradition anglaise, Wicca, s'est transmise aux États-Unis et il y a des Wicca de tous ordres aux États-Unis. Les groupes néo-païens qui m'intéressent ont muté dans les années 80 lors de l'élection de Ronald Reagan. Elles ont su à ce moment-là qu'elles entraient dans ce que Félix Guattari a appelé les années d'hiver, c'est-à-dire qu'il allait falloir résister, que ça allait être très dur. Et à ce moment-là, leurs rites sont devenus expérimentaux. C'est-à-dire que la question était quelles sont les manières, et y compris on pourra y revenir, d'invoquer la déesse, qui nous donne la capacité de sortir et de faire ce qu'il faut, ce qu'elles appellent le travail de la déesse, mais faire ce qu'il faut politiquement. Et donc, ces sorcières se sont appelées, lorsqu'elles se sont appelées sorcières, cela fait aussi partie, non de l'idée d'une longue tradition qui se serait transmise par des voies secrètes et qui finalement serait, reprise, d'autres font plutôt comme ça. Ici, c'est aussi une manière de penser effectivement notre histoire. Starhawk raconte quelque chose qui est très important pour elle, qui était que avant, dans tous ces mouvements américains, il y avait aussi le mouvement de venir aider les mouvements de résistance indiens, qui étaient contre l'expropriation des terres, etc. Et qu'une vieille indienne a accueilli le groupe auquel elle participait, en disant, vous êtes très gentil de venir nous aider, et d'où venez-vous ? Enfin, d'où venez-vous ? Et l'idée qu'elle ne pouvait pas répondre, c'est-à-dire qu'elle venait au fond de désincarner, elle venait au nom de la justice, d'où elle venait ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était qu'elle venait défendre les opprimés, lutter contre une injustice, les a fait penser. Les a fait penser au sens d'où sommes-nous ? Parce que si nous ne sommes de nulle part, alors nous sommes le cerveau pensant de l'humanité. Il n'y a que le cerveau qui peut se dire de nulle part. Et donc, en fait, problème. Problème par rapport à toutes les multitudes du monde, etc. Nous sommes ceux qui courent là où la justice ou la résistance nous appelle. Et se nommer sorcière a changé de sens à ce moment-là, parce que ça voulait dire, bien oui, nous nous nommons au sens où nous sommes la mémoire active, la mémoire fabulatrice, la mémoire productrice, créatrice de cette dernière grande, ou plutôt première ou dernière, en tout cas dernière grande éradication sur le sol européen et un peu américain. Donc cette fin d'une culture paysanne, avec ses rites, avec ses sagesses, avec ses savoirs, donc on retrouve les commons et la destruction des commons. Et comment dirais-je, donc ça fait le nous moderne. Nous sommes empoisonnés par cette histoire qu'il y a les autres les autres peuples au nom moderne et terrestre, mais comme si notre lignée moderne plongeait droit ses racines dans la cité grecque et dégageait un nous toujours plus civilisé, chrétien, puis laïque, puis etc. Et à cela, elle répond par une autre histoire. Cette dernière éradication est aussi l'annonce de toutes les opérations d'éradication coloniale. Ça a commencé chez nous. Il n'y a pas nous et les autres. Non, déjà, comment dirais-je, il y a matière à se situer. Qui est le nous ici? Est-ce que nous sommes les héritières des sorcières brûlées ou des chasseurs de sorcières? Ce choix-là est encore parmi nous. Ce choix-là, il n'y a plus des gens qui vont mettre le feu au boucher, hein, mais là, le personnage du chasseur de sorcières est intéressant, parce qu'il peut, se retrouver partout, il y a les petits ricanements qui tuent les possibles. Donc, ce choix donné, sommes-nous les descendants des sorcières brûlées ou des chasseurs de sorcières, est un choix qui fait que l'on peut se situer sur un mode fabulatoire, sur un mode productif, sur un mode inventif et pas historicisant. Mais c'est une manière de situer et de réclamer, c'est-à-dire de se réapproprier et de guérir, de produire ce processus de récupération, guérison, réappropriation de ce qui a été éradiqué et qui ne cesse de l'être. Voilà, ça c'était... je suis désolée, comme d'habitude, j'ai parlé beaucoup trop lentement, longtemps, mais c'est pour vous donner quelques cartes pour que vous vous en empariez.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sentir cette dynamique, elle vient plutôt à des moments de crise, hein, c'est votre présentation et également dans la vôtre, et que bon, les moments de crise, c'est quand même des moments où il faut faire des choix. Des moments où il faut faire des choix, hein, vous l'avez dit aussi, une crise, bon, la typologie de crise, hein, c'est des choix. Et quand on fait des choix, forcément, on se... D'abord, on risque de se tromper. Échec au réussite, ça, hein, vous l'avez aussi évoqué au début. Et quand on fait des choix, on prend des risques. Quand on prend un risque, on sort d'une certaine façon de la servitude volontaire, hein, de cet assujettissement à un pouvoir unique. Pense à la façon dont Pierre Clastres a pu le dire lui aussi, tirer le fil sur une lecture de société contre l'État possible. Donc effectivement, comment on peut sortir d'un assujettissement, d'une servitude à un modèle où il y ait un principe unique qui domine tout et qui se reproduit ensuite de domination en domination, de domination en domination. C'est ma question pour l'instant.
Et donc maintenant, le risque, ce serait que je réponde directement. Et comme ouais. Une partie de... Non, et c'est pas compliqué quoi que ce soit, mais c'est ouvrir la situation dans ses choix. Je pourrais bien m'en répondre, mais ce qui serait le mieux, c'est que quelqu'un d'entre vous puisse reprendre la balle au bout.
Je ne sais pas si je vais répondre directement, mais pour renseigner ce que tu dis, comment justement, quels sont les outils pour lutter contre un principe comme ça, une succession de domination? Peut-être qu'il y a des gens ici qui connaissent les outils justement qui sont utilisés dans les rituels païens. Et ces outils-là peuvent-ils servir? C'est un peu le pari, je pense, de croiser sorcellerie et capitalisme. Ces outils-là peuvent-ils servir à construire des actions politiques collectives avec d'autres repères, d'autres outils Alors moi, je personnellement, j'ai rarement, j'ai très faible connaissance des rituels néo-païens. Et s'il y a des gens qui peuvent un peu, enfin, qui ont une expérience là-dessus, peut-être on pourra voir à quel point ces outils sont opérants ou peuvent jeter un sort contre le capitalisme.
Non, mais ce qui est assez intéressant pour ouvrir ce que vous dites, moi ce qui me trouble un peu, c'est que vous finissez par dire mettons en fait les descendants des sorcières ou de ceux qui les ont brûlés, alors que la première partie d'exposition qui s'appelait figure ambivalence, moi je trouve que la dimension indécidable en fait de ça est fondamentale, et la figure de la sorcière comme justement à la rigueur, pas aussi forcément féminine que vous l'imaginez, mais justement à la rigueur une espèce de circulation du genre qui peut en avoir été une manière aussi nouvelle d'aborder la question, mais ça on en parlera. Je dis ça parce que c'est pour justement pour rebondir. Non, juste pour dire, c'est drôle parce que c'est la même question en fait qu'on a avec l'histoire coloniale. Il faut savoir de qui on est les descendants. Et en fait, je trouve que cette question, elle est pas aussi importante que d'avoir la volonté de faire une expérience. En fait, quand vous parlez de est-ce qu'on peut utiliser quelque chose avec un objectif, pour moi, fondamentalement, c'est le fait d'avoir un objectif qui pose un problème. Parce que par définition, une expérience est une chose qui n'est pas construite en fait dans un projet.
Mais quand même, pour parler des sociétés des Caraïbes, par exemple, est-ce que les gens qui vivent aujourd'hui aux Caraïbes sont descendants des esclaves ou des esclavagistes? C'est une question qui est assez forte.
Mais
vraiment, c'est une, il me semble que c'est une question qui est forte.
Mais la question, elle est forte, mais c'est on cherche une réponse à la question qui est un problème. La question, elle est tout à fait valable.
Une des choses dont on pourrait dire, c'est que l'indécidable, beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on ne pense usuellement, à mon avis, sont indécidables. C'est justement quand il y a indécidable qu'il faut décider. Et décider, c'est pas un coup de poing sur la table, c'est comme ça. Et c'est surtout pas chercher la vraie réponse. C'est s'engager d'une certaine manière et expérimenter ce que ça fait de s'engager comme ça. Et c'est pour ça que ce qui m'est intéressant, c'est les mouvements collectifs qui ne sont pas pour le vrai, mais l'expérimentation qui engage dans une certaine direction. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se dire qu'est-ce que c'est un chasseur de sorcières aujourd'hui? Moi, je pense que la plupart de mes collègues sont à l'université, sont les descendants des chasseurs de sorcières. Et que ils ne le savent pas. Mais si je le dis, ça veut dire que mon problème, ça va être comment ne pas l'être. Comment faire autrement à l'université, qui est un des lieux, pas le lieu, un des nombreux lieux où ça peut se jouer. Donc c'est vraiment, comment dirais-je, de la fabulation et pas de la dénonciation. On ne va pas dénoncer un malheureux philosophe des droits de l'homme en disant « chasseur de sorcières !» Ça n'aurait aucun sens. C'est comment on fait autrement qui compte. Et pour ça, la seule, après je redonne la parole, ou plutôt je la lâche. Je crois que l'un des points, c'est dangereux, mais l'une des choses que ces sorcières nous disent avec leur déesse, parce que pour elles, la déesse, le dire de la déesse des sorcières néo-païennes contient notamment cette phrase « Je suis là où il y a de la joie, là où il y a de... où la joie passe, où l'invention passe, où, etc. » Donc, c'est pas une figure réaliste, c'est quasiment une figure expérimentale et pragmatique, je dirais. Et l'une des choses qui a été inventée, ce sont les groupes d'affinité. C'est-à-dire des groupes qui se réunissent autour de quelque chose qui a beaucoup de dimensions, mais une dimension de joie. Une joie qui peut être douloureuse, hein, parce que c'est difficile de faire des choses ensemble, mais une dimension de joie, ce qui fait que quand les groupes d'affinité se réunissent notamment pour fabriquer un mode de manifestation dans les rues, eh bien, c'est pas bastination. C'est, comme elles le disent, faire exister dans la rue à ce moment-là le sens d'un autre monde. Pas le gueuler, mais lui donner l'incarner.
En même temps, j'ai envie de vous demander, quand vous voyez... voyez, quand vous repensez, ou peut-être que vous avez vécu ça, vous savez, les premières manifestations de femmes à Paris, en 71, 72, le nichon à poil, les dessins, on mettait au bout de morceaux de bois, vous savez, hein? Et que là maintenant, vous dites, bon, alors, on se réunit, on va trouver un moyen de manifester. Quand même, il y a quelque chose de moi qui me... Je ne sais pas, là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à entendre. Quoi. Dans cette histoire, par exemple, de la non-violence, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'est la non-violence? Et moi, il y a quelque chose que, en termes de résistance, moi, quand on commence à me parler de non-violence, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Alors peut-être que vous pouvez
m'aider. Je n'ai pas cité la violence comme un idéal moral, mais comme une décision pragmatique. Et il n'est pas un souci, c'est un outil que ces ressorts d'efficacité. Comment dirais-je, certains le disent, parmi les non-violents, ce qu'on veut dire, arrivent au bout. Ils ont été intéressants, on ne sait pas. Ben, moi, je ne sais pas, je ne suis pas une programmatique, je suis une expérimentale, je cherche. Et ce qui m'intéressait par rapport aux histoires féministes du début des années 70 en France, si certaines d'entre vous, voire certains, ont des histoires à raconter à Dieu, qu'est-ce qui les a empoisonnés? Qu'est-ce qui les a empoisonnés?
Alors, moi, j'ai
qu'est-ce qui
les a empoisonnés?
Empoisonnés.
Par où est venue la tristesse?
Empoisonnés. Pourquoi vous dites empoisonnés?
Parce que je pense qu'elles l'ont été.
Mais pourquoi? Est-ce que vous employez ce terme empoisonné?
Parce que pour moi, c'est très important, empoisonné.
Elles ont été empoisonnées parce que vous... Enfin, pas parce que... Moi, je pense que beaucoup d'entre eux... Les femmes très engagées, il y a beaucoup d'historiennes en France, contrairement aux États-Unis. Et les historiennes voulaient trouver des raisons et n'étaient pas dans une création d'aller vers quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et ça a créé des clivages à l'intérieur du mouvement des femmes, où il y avait les gens qui étaient dans la raison raisonnante et d'autres qui étaient plus dans une forme de raison sensible. Et essayer de sortir un peu de ce qu'on peut appeler la servitude volontaire. Moi, je pense que les historiennes étaient encore dans une servitude volontaire vis-à-vis de l'histoire et de la loi patriarcale, beaucoup plus que celles qui essayaient d'aller vers quelque chose dont on ne savait pas exactement où on allait, mais en tout cas, on savait dire non à une certaine
certitude.
Il y avait
les deux.
Comment ?
Il y avait les deux.
Oui, mais je pense que les historiennes qui étaient aussi universitaires, beaucoup d'entre elles, ont pu tout de suite écrire, faire des papiers, et il y a une certaine... Moi, c'est pas elles que je reproche, c'est une situation qui a fait qu'elles ont été dominantes.
Bon, moi, je ne trouve pas, parce que quand même, si je me souviens bien, dans une grande partie des années 70, justement, peut-être les historiennes universitaires ont pu travailler avec celles qui n'étaient pas, et si je me souviens bien, les textes étaient collectifs, ils n'étaient pas signés, ils étaient quand même relativement faits en commun, il y avait quand même cette énergie, et ce qui était magnifique, c'est justement de pouvoir le faire, qu'on ne reste pas totalement dans sa discipline. Alors, si on est historienne, on est condamné à jamais militer, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, justement, au contraire, il y avait ce moyen. Par ailleurs, moi, j'ai une dette absolument faramineuse à ces historiennes qui ont effectivement entièrement revisé l'histoire du monde et qui ont essayé de proposer d'autres formes d'historicité, d'autres formes d'histoire et surtout d'autres formes de temps. Et c'est
moi,
ça
qui explique que les
géographies. Et bon, moi, je me sens une dette incommensurable vis-à-vis de ces
historiens. Moi, je pense que les artistes femmes qui ont, surtout aux États-Unis, nous ont plus ouvert les yeux que les historiennes.
Alors,
mais bon, chacun voit ses formes de sensibilité.
Dans les années 70, il y a eu aussi, en province, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Espagne, en Italie, des femmes qui ont acheté des terres, qui sont installées à la campagne, qui ont créé des communautés. Il y a eu des lesbiennes voyageuses, ça circulait tout le temps, il y a eu des terres de femmes. coup, je veux dire, on a essayé le Tarsi, l'autonomie agricole, on travaille beaucoup sur le soin, justement, et puis, bon, je pense qu'il y a eu, différentes formes aussi d'investissement, et il y a les femmes des universités qui venaient aussi sur la terre de femmes, je veux dire, comme les groupes femmes ou les cafés de femmes, les maisons de femmes aussi, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Hein.
Oui, on ne répond pas à la question pourquoi elles ont été empoisonnées.
L'idée d'un poison, c'est pas qu'il y a un empoisonneur méchant qui met du poison comme les figures de la sorcière qui vient empoisonner les pluies, etc. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus. C'est encore une fois quelque chose de beaucoup plus expérimental. C'est qu'est-ce qui, indépendamment de toutes les bonnes volontés ou de l'intérêt ici, fait que quelque chose peut tourner mal, quelque chose peut se mettre à tourner en rond, quelque chose peut, etc. Donc, je suis assez proche de. J'aime bien l'idée de pharmacone. Le remède peut être empoisonné. Donc, le tout, c'est l'art. C'est l'art de doser. C'est l'art de voir ce qui peut tourner poison alors que. Pris autrement, ça peut devenir tout à fait intéressant. Donc c'est pas un binarisme poison, bon, mal, etc. C'est plutôt une expérimentation. Avec l'idée qu'effectivement, si on n'expérimente pas, beaucoup de choses tournent de poison. Donc c'est aussi c'est une différence entre ce qui demande art, soin et attention. Parce que laisser à soi-même, ça va se psychologiser, ce qui est un des poisons, c'est-à-dire moi, toi, etc. C'est donc cette idée de. Les Américains appellent ça craft, et j'aime bien, parce que c'est art, mais au sens savoir-faire aussi. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas avant tout esthétique, c'est art au sens des artisans aussi. Donc voilà, quand je dis poison, ça peut être mal entendu et je m'excuse d'avoir lancé ce. Ça fait partie de mon idiome personnel et parfois ça sort comme ça. Mais c'est vraiment pas pour dire qu'il y a des empoisonneurs.
Non, mais c'est.
C'est des processus.
C'est un milieu qui était. On poussait sur un milieu qui était un peu empoisonné. Parce que les Québécoises n'ont pas du tout fonctionné comme nous.
Non, c'est ça qui me. C'est pour ça que je veux dire, il y a quelque chose qui est tourné mal dans nos pays. Parce que quand j'allais au Québec, quand j'allais au Danemark, etc., je trouvais des réunions où il y avait quelque chose d'autre était en train de se passer que ce que je sentais en France. Là, on trouvait des hommes et des femmes qui tricotaient pendant qu'on parlait.
Bon, vous posez une bonne question. Qu'est-ce qui a tourné bien, à votre avis? Vous dites qu'il y a des choses qui ont mal tourné ici, mais qu'est-ce qui a bien tourné aux États-Unis?
Et puis c'est aussi vu la temporalité, moi je trouve que la question est-ce que la chose elle doit se finir en elle-même par son premier mouvement. Peut-être que ce qui tourne bien, c'est qu'aujourd'hui on a un matériau à travailler qui est quand même à un autre endroit que où elle l'avait prise, donc ça veut dire que quelque chose a tourné bien parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été perdu, et que donc eh ben, il va falloir un autre cycle pour que la chose elle tourne, elle se finisse aussi à un moment donné pour que d'autres le reprennent. Mais à la rigueur, cette forme-là, moi je trouve que dans ce que vous dites, on a l'impression qu'il y a une espèce de rapport au progrès qui me pose une question. Comme si on arriverait à faire un geste complet qui tournerait entièrement bien. Moi, le fait que ça foire, c'est le retour à la vie, en fait.
Oui,
mais
ça ne voit pas en quoi ça foire.
Non, mais il y a deux manières de dire tourner bien, il y a deux manières de dire foirer, à mon avis. Je suis responsable de ça après, on relance. Mais ce qui me frappe ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que. Il y a eu des tas, ces lois là, si ça avait tourné bien, ça se serait. Hein. J'avais dit la chose tendre à tourner relativement mal, ces temps-ci et tout de même depuis quelques décennies. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu, me semble-t-il, de relais, puis une dynamique de reprise. Ça rendit les cercles. Les cercles, les groupes d'affinité, etc. se font et se défont. On va chercher. Se font et se défont. Ce qui est important, c'est qu'ils se refont aussi. C'est-à-dire qu'il y a une expérience, il y a un savoir, et c'est ce qu'on voit avec le mouvement Occupy aux États-Unis. Ce savoir, cette expérience qui produisait des choses extrêmement intéressantes avant 2001 et qui a sporulé au sens, qui a dû vivre très petitement et dans un milieu qui était devenu extraordinairement inquiétant, etc. Eh bien, il a pu reprendre. Donc, on pourrait dire que c'est une tradition, mais pas au sens des grandes traditions, mais quelque chose qui contient des savoirs capables de se transmettre et de se réinventer. Et quand je dis tourner bien, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que cette pratique de transmission, réinvention et une certaine capacité de repousser, renaître dès que le moment, comment dirais-je, s'y prête. Et c'est ça qui me manque ici en Europe. Je veux dire. Et c'est ça qui m'a toujours manqué, c'est toujours cette idée que quand ça a raté, il faut recommencer à zéro. Il faut tout réinventer. Là, il me semble qu'il y a des pratiques où on ne recommence jamais à zéro, qui sont des pratiques de relais, des pratiques de réinvention relais, mais où une génération ne se retrouve jamais à dire qu'il faut tout réinventer.
En même temps, je sais que s'il y a des ruptures comme ça qui se passent, qu'est-ce qui se passe dans ces moments de rupture? C'est-à-dire que, voilà, quand il y a une grosse mobilisation comme on a connu dans les années 70 des femmes, etc., au niveau mondial, on va dire, avec des expériences différentes, des actions différentes, etc. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu, on a l'impression qu'il y a eu une rupture. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est quoi cette rupture? Parce qu'à un moment donné, je finis juste mon idée, c'est qu'on a beaucoup pensé, et les générations qui sont nées, je pense dans les femmes surtout, comme des choses acquises. Comme si les choses étaient acquises. Or, on s'est bien rendu compte que tout ce qui semblait être acquis et qu'il fallait continuer dans ce sens-là pour aller plus loin, elle a été complètement détricotée par ce qui nous amène à nous-mêmes aujourd'hui dans la thématique, c'est-à-dire le capitalisme, avec ses outils de la consommation, etc., avoir plutôt qu'être. Donc, il y a quelque chose au niveau de la communication très forte qui nous échappe parce qu'on n'a pas les mêmes outils et que voilà, et qu'il y a une nouvelle génération qui se réaccapare cette histoire. Mais en le redécouvrant, elle le redécouvre à mon avis, parce qu'il y a eu une rupture de transmission, mais justement à travers d'autres choses qui peuvent être des actions artistiques ou complètement autre chose, la musique, voilà. Donc, et tout d'un coup, il y a une récupération de ce qui s'est passé avant. Voilà, mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment se faire ces ruptures-là. Parce que s'il y a quelque chose à travailler, dans la vigilance, je pense, c'est cette idée que c'est pas donné, c'est jamais acquis, quoi. C'est ça qui m'intéresserait.
Donc, quand même, moi je ne sais pas, mais c'est passé ça, parce que des relais, il y en a eu, il ne faut pas déconner. Quoi. Il y a eu, après, le mouvement féministe, qui s'est emparé du mouvement féministe, c'est le mouvement de lutte contre le sida, quand même. On va exagérer, quoi. Et ça a été les mouvements de lutte queer, ok, lesbien, etc. Le relais, il a existé, je ne peux pas laisser passer ça. C'est comme s'il y avait eu un.
On peut voir aussi dans l'actualité, enfin, je veux dire, là, actuellement en France, par exemple. Le mouvement ni pute ni soumise quand même, si c'est pas un relais, qu'est-ce que c'est? Enfin, je veux dire, c'est quand même à un moment donné. C'est quand même des jeunes femmes qui à un moment donné se sont mis alors que peut-être elles n'avaient pas forcément la culture de l'actionnisme. Les années 70, parce que ça aussi, il faut le vérifier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, des mises en place d'actions de la part de gens, de jeunes femmes, de jeunes filles, de jeunes femmes, même, qui, n'ont pas forcément la culture du fameux actionnisme des années 70, vis-à-vis duquel, quand même, il faut faire aussi attention, parce que, au bout du compte, ce n'est pas véritablement la première fois que ça s'est passé. Tout à l'heure, vous parliez de l'histoire des sorcières, et l'histoire du personnel et du politique. Moi, je crois, sincèrement, que chaque fois, puisque c'était de l'histoire des mouvements féministes dont il est question, quand à partir du 1905-1906 en Angleterre, et quelques temps auparavant aux États-Unis, au moment au début des véritables mouvements ouvriers, vers les années 1880-85, quand dans le mouvement ouvrier, les femmes ouvrières, aidées par celles qui avaient un peu plus de culture, des institutrices, ont décidé de se dégager un peu de cette histoire de mouvement ouvrier et de créer déjà des regroupements de femmes ouvrières travaillant en vue d'un combat. Et après ce qui s'est passé en Angleterre, là déjà la question du personnel et politique, bien entendu, elle n'était pas officielle, mais elle existait véritablement déjà. Et en fait, l'expérience du personnel et du politique au travers de l'expérience du regroupement, c'est d'abord se rendre compte que c'est pas mal d'être montré du doigt pour arriver à dire il faut être montré du doigt. Et c'est là que l'action, à un moment donné, peut se mettre en place, quoi. Moi, c'est pour ça que je trouve que la communication de ce qui continue à se passer est floue, peut-être, est floue. En même temps, on a vu, là, au moment des élections présidentielles, que des femmes, après, on peut dire, c'est toujours les mêmes, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, des femmes se sont regroupées et ont invité les candidats à dire quelle serait leur... Pour, bien entendu, les histoires qui sont toujours les mêmes, qui sont bien entendu la parité financière, la femme en nanana, l'histoire du mec là, qui a viré la loi sur le harcèlement, enfin ça aussi, donc ça en effet, peut-être que ce type-là, le juge, c'est un chasseur de sorcières, puisque vous employez ce terme-là, chasseur de sorcières. Peut-être que
celui, la grosse
louche. Mais peut-être que celui qui a décidé que finalement c'était pas, je sais pas pour la raison pour laquelle il a pris cette décision, c'est un chasseur de sorcières, peut-être. Parce que forcément, à un moment donné, dans l'image collective, de toute façon, les femmes sont toujours coupables. Elles sont toujours coupables. Elles sont toujours là à nous attirer, à montrer leur méchant, à montrer leur cul. Quand on les voit, c'est magnifique, ces beautés comme ça dans le métro, comme ça, qui sont ravissantes, dans leur petite robe et tout et tout. Mais bien sûr, salopes. De toute façon, à un moment donné, ce sont des salopes. Bon, ça aussi, ça... D'accord. Pourquoi ça vous ennuie ce que je dis? Pourtant, je parle de vous.
J'ai pas envie de me faire plaisir, alors.
Ah, ben voilà. Alors là, c'est là. C'est là où je pense que...
Par vous,
non,
non,
c'est bien
quand
même.
Je sais pas.
Je trouve que c'est bien aussi d'essayer la parole pour que la personne ait le temps de développer
son avis,
quoi. C'est bien. Il faut que la personne ait le temps de faire la boucle, de s'avancer, sinon...
Alors, je m'excuse en français, c'est un peu faible, mais je suis québécoise, avec un breton, mais québécoise. Et c'est très intéressant d'entendre la perspective pour l'Amérique du Nord. C'est très, l'atmosphère est très, très différente entre ici et là. Pour moi, je trouve vraiment psychose. Aux Amériques du Nord. Et maintenant, il y a beaucoup de protestes à Montréal, au Québec aussi. Et pour moi, personnellement, le psychose, c'est tangible. Et pour la plupart, je pense, je trouve la réponse à Occupy Wall Street et les autres. C'est une réponse. D'une crise plus comme une réponse créative ou transformative. Mais au même fois, c'est une réponse et c'est bon, juste pour ça. Mais pour moi, je cherche des exemples des sorcières capitalistes, spécialement des femmes. Et je pense ici, vous avez quelqu'un ici à Paris, un vraiment bon social, social witch, social, en Michelle.